Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du compositeur Claude Debussy. Claude Debussy est né le 22 août 1862 et est décédé le 25 mars 1918 à l'âge de 55 ans. Claude Debussy est un compositeur majeur puisque c'est lui qui pose le premier jalon de la musique moderne et qui est clairement celui qui fait entrer la musique classique dans une nouvelle ère. Il naît à Saint-Germain-en-Laye dans une famille de marchands de céramique et de poterie. Une enfance somme toute heureuse, bien qu'en 1870, lorsque la guerre éclate, Claude Debussy est accompagné de sa tante Clémentine à Cannes. Et c'est là qu'il va avoir ses premiers contacts avec la musique, puisqu'elle lui déniche son premier professeur de piano. Entre-temps, son père s'est engagé dans la garde nationale. Il a été arrêté puis libéré 2 jours plus tard, mais emprisonné à nouveau par les troupes de MacMahon. Pendant son séjour en prison, il fait la connaissance de Charles de Sivry, qui est un musicien autodidacte et qui était notamment chef d'orchestre, et du beau-frère de Paul Verlaine. Donc les deux hommes se lient d'amitié, échangent leurs soucis, et le père de Claude confie que son fils a des facilités musicales, si bien que Charles de Sivry proposa de confier le jeune Debussy à sa mère, Madame Antoinette Flore Mottet de Fleurville, qui était une excellente pianiste. Il finit par rentrer au Conservatoire de Paris grâce au lobbying de son père pour l'y faire rentrer grâce au parrainage du compositeur Félicien David. Il suit les cours d'Antoine Marmontel au Conservatoire, considéré comme un élève dissipé, arrivant souvent en retard. Il est heureusement considéré également comme un enfant intelligent et plutôt talentueux. Il obtiendra quelques prix et quelques médailles au conservatoire. Il commença également à faire ses premiers concerts, ses premiers pas sur scène, et à être de plus en plus demandé. Il a une technique de piano jugée peu académique. Il obtient en 1876 une première médaille en solfège, mais malheureusement rien au piano. Dans le jury, on pouvait noter la présence, entre autres, de Camille Saint-Saëns et de Jules Massenet. Il prit ensuite des cours d'harmonie qu'il jugeait sans intérêt, voire même futiles. À 18 ans, il est envoyé au château de Chenonceau chez la richissime Marguerite Wilson, et qui était une femme qui avait l'habitude de recevoir des pianistes afin d'animer ses soirées, qui était plutôt excentrique et qui était une grande admiratrice de Wagner, et qui tenait aussi en haute estime Gustave Flaubert et la peinture italienne. On imagine que ce fut le premier contact de Claude Debussy avec la musique de Wagner. Il revient à Paris en 1880 pour entamer sa 7e année de conservatoire. Il s'inscrit dans la classe d'accompagnement et c'est ce qui lui permettra d'obtenir son premier prix en 10 ans de conservatoire. Dans le même temps, il échoue en harmonie, où d'ailleurs, juste après le concours, son nom fut rayé de la classe et il ne fut même pas classé. Son professeur Marmontel lui trouva une nouvelle occupation déterminante. En effet, une dame russe vint chercher au conservatoire un pianiste pour faire de la musique durant l'été. La dame en question n'était autre que Nadeja von Meck, une veuve richissime dans la cinquantaine. Grande voyageuse, elle avait connu les Rubinstein et Liszt, mais c'est surtout son amitié épistolaire pour Tchaïkovski qui la rendit célèbre. Ils jouèrent ensemble donc beaucoup de transcriptions pour quatre mains des œuvres de Tchaïkovski. Pendant cet été, il passa donc du bassin d'Arcachon à Paris, Nice, Gênes, Naples, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il présenta ses premières compositions, dont une fut envoyée par Madame von Meck à Tchaïkovski. Il s'agissait d'une danse bohémienne pour piano. À son retour à Paris, il finit par s'inscrire enfin dans une classe de composition. La logique aurait voulu qu'il choisisse celle de Massenet, qui avait très bonne réputation. Mais il sera orienté vers celle d'Ernest Guiraud, fraîchement nommé au conservatoire. Il entra également dans la classe d'orgue de César Franck en tant qu'élève libre. Ayant besoin de revenus plus stables,
il se fit embaucher comme accompagnateur pour le cours de chant de Marie Moreau-Sainty, poste qu'il occupera pendant 4 ans. Et c'est à ces cours qu'il rencontrera une femme mariée de 32 ans, mère de 2 enfants, Marie Vanier. À 19 ans, Debussy s'est pris de cette femme et lui écrivit beaucoup de mélodies sur des poèmes de Théophile Gautier, le comte de Lille et Théodore de Banville. Autant de mélodies que de preuves d'amour, on retrouvera écrit sur ses partitions « À Madame Vanier, ces mélodies conçues en quelque sorte par votre souvenir ne peuvent que vous appartenir comme vous appartient l'auteur. » Malgré cet amour, Claude Debussy décide un nouvel été de le passer avec Madame Van Meck et de la rejoindre à Moscou. Entre-temps, sa mère apprit que celui-ci avait jeté son dévolu sur une femme mariée et en fut consterné. En 1882, il fait un séjour à Rome. Pour se présenter au fameux prix de Rome, il obtient le second prix avec sa cantate « Le Gladiateur » en 1883. Pas tout à fait encore en rupture avec l'académisme, le jeune musicien décrocha le premier prix de Rome en 1884 avec sa cantate « L'enfant prodigue ». Grâce à ce prix de Rome, il obtint une bourse et un séjour de 3 ans à la Villa Médicis. C'est à ce moment-là qu'il rencontra des musiciens importants, dont Verdi et Liszt. Malgré cela, il vit très mal cet exil et finalement n'écrira seulement que 4 pièces durant cette période. Au bout de 2 ans, il revient en France, donne sa démission au conservatoire et s'installe dans le quartier de Saint-Lazare et commence une relation avec Gabrielle Dupont, qu'il aime à appeler Gabi aux yeux verts. Ils vivront ensemble pendant près de 10 ans, entre 1884 et 1892. En 1888, il se rend à Bayreuth et assiste à plusieurs opéras de Richard Wagner, comme Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Tristan et Isolde, ou encore Parsifal. Si ses œuvres provoquent chez lui un sentiment mitigé, elles le marqueront à tout jamais. C'est en 1889, lors de l'exposition universelle, qu'il fait la découverte de rythmes et de sonorités exotiques, notamment celles du gamelan javanais, qui lui font forte impression et qui influencent profondément ses compositions à venir, gamme, couleurs sonores et ruptures rythmiques. En 1890, il compose la suite Bergamasque pour piano, son premier succès. S'ensuivra le prélude à l'après-midi d'un faune pour orchestre, qui est une paraphrase d'un poème de Stéphane Mallarmé. La première eut lieu à Paris le 22 décembre 1894, fut très mal exécutée et l'ouvrage s'attira les foudres d'une grande partie de la critique, tout en faisant malgré tout bonne impression auprès de certains cercles artistiques présents. Cette composition remportera quand même un franc succès dans toute l'Europe. En 1894, il s'attela à la composition de son unique opéra complet « Péléas et Mélisande », véritable œuvre poétique, sur un livret de Maeterlinck. Cet opéra sera une influence majeure de nombreux compositeurs du XXe siècle. La première de Péléas et Mélisande eut lieu le 30 avril 1902 à l'Opéra Comique et fut d'abord un échec désastreux, dû à une musique singulière, une prosodie et un rythme extrêmement lent qui déconcertèrent le public et une partie de la critique. Heureusement, quelques représentations plus tard, ce fut un triomphe qui lui permit de ne plus se soucier de problèmes financiers pendant un temps. En coulisses, durant les préparations des représentations, des incidents se produisirent qui auraient pu en faire un échec cuisant. Debussy, en effet, avait reçu l'autorisation de Maeterlinck d'utiliser son livret à la seule condition que sa compagne, Georgette Leblanc, qui est la sœur de Maurice Leblanc, l'auteur des aventures d'Arsène Lupin, chante le rôle de Mélisande. Mais l'opéra comique et le compositeur accordèrent le rôle à Mary Garden, une jeune soprano américano-écossaise. Maeterlinck prit très mal cet affront et provoqua même Debussy en duel. Le librettiste était tellement en colère que s'ensuivit des tentatives de sabotage telles que la dégradation sur les partitions pendant les répétitions. Pour couronner le tout, des pamphlets contre l'ouvrage furent même distribués à l'entrée par des détracteurs. Côté affectif, Debussy se sépare de Gabrielle Dupont pour épouser la mannequin Marie-Rosalie, dite Lily Texier. Sa nouvelle femme lui inspirera ses nocturnes et on put lire sur les partitions « Ce manuscrit appartient à ma petite Lily Lilo, tout droit réservée, c'est la preuve de la joie profonde et passionnée que je ressens d'être son mari. Entre-temps, il fait ses débuts de journaliste à la Revue Blanche qui le sollicite pour donner son point de vue sur l'actualité musicale parisienne. On le verra tour à tour détracteur de Gluck, de Berlioz, de Saint-Saëns et des véristes italiens. Il se montre également toujours détracteur de Wagner, mais un admirateur inconditionnel de Rameau, Weber et Moussorgsky. 4 ans plus tard, il rencontra Emma Bardac, qui est l'ancienne maîtresse de Gabriel Fauré, et avec qui il entama une nouvelle relation, délaissant alors son épouse. Sa femme vivra très mal cette rupture et fera une tentative de suicide d'une balle dans la poitrine. Elle en survit, mais la balle resta logée dans ses vertèbres jusqu'à la fin de sa vie. L'affaire fit scandale et Claude Debussy fut fermement critiqué pour son attitude dans cette histoire, même par ses amis proches. Une fois cette affaire passée et un exil quelque temps à Londres, il épousa Emma Bardac le 20 janvier 1908. Le 30 octobre 1905 naît la première fille de Emma et Claude Debussy, qui s'appellera Claude Emma Debussy, surnommée Chouchou, et à qui il dédiera sa suite pour piano Children's Corner, composée entre 1906 et 1908. Finalement, ce nouveau mariage ne le rend pas spécialement heureux. L'artiste lyrique Marie Garden écrivait plus tard à propos du compositeur « Honnêtement, je ne sais pas si Debussy a vraiment aimé quelqu'un, il aimait sa musique, et peut-être lui-même. Je pense qu'il était enveloppé dans son génie, c'était un homme très très étrange. » En ce début de XXe siècle, et pour s'assurer une aisance financière plus importante, Debussy diversifie quelque peu ses activités. On connaît son activité de critique musicale. Il collabore également avec Diaghilev et Bakst sur une idée de Nijinsky lors de la création du ballet-jeu, qui ne connaîtra malheureusement pas de succès. À l'époque, il fait de nouvelles rencontres. On peut souligner une amitié avec Igor Stravinsky, encore jeune. En 1910, il apprend qu'il est malade d'un cancer du rectum. Sa santé se détériore rapidement et ses souffrances sont de plus en plus difficiles à supporter. Il fait une tournée à Saint-Pétersbourg en novembre 1913. Il croisera Serge Prokofiev à un concert qui se mettra au piano pour remercier Debussy. Pendant ce voyage, il rencontra également son amour d'antan, la fille des Van Meck, Sonia, devenue princesse Galitzine. Lors de cette rencontre, elle lui dit « Il me semble que nous avons bien changé ». Et il lui répondit « Oh non, madame, nous n'avons pas changé, c'est le temps qui a changé. Nous sommes restés comme avant ». Debussy s'éteint le 25 mars 1918 au 24 Square du Bois de Boulogne. Il est d'abord inhumé au cimetière du Père-Lachaise, sans discours et sous les tirs d'obus des Pariser Cannonen. Le compositeur repose désormais au cimetière de Passy dans le 16e arrondissement. Sa fille meurt de la diphtérie le 14 juillet 1919 et sera enterrée dans la tombe de son père. Sa femme Emma décédera en 1934 et sera enterrée à leur côté. On peut qualifier la musique de Debussy de post-romantique, c'est vraiment une rupture avec la forme classique, bien qu'il y ait une perfection formelle et un sens de l'unité qui structure ses compositions. Il y aura une grande influence des musiques exotiques dans sa musique et sera une véritable anticipation du jazz et de la musique contemporaine. Il doit beaucoup à la musique de Wagner qu'il raillait constamment et tout un pan de la musique du XXe siècle lui est redevable. Son innovation principale fut de refuser la forme sonate de type ABA qui, malgré les variations et les innovations que lui auront apportées entre autres Beethoven, Brahms et Bruckner, contraint le compositeur à avancer selon un schéma fixe et prédéfini. L'esthétique de sa musique était novatrice et elle suscita à l'époque des controverses entre debussistes et anti-debussistes. Il était à la fois un génie de l'orchestration, qui en faisait un digne héritier de Berlioz et au moins l'égal de son contemporain Ravel. Il était un harmoniste inclassable et un dramaturge subtil. Sa musique créa une révolution dans l'histoire de la musique à travers les ponts qu'il lança en direction des autres arts et des multiples sensations qu'il éveillait, les sons et les parfums, les mots et les couleurs. On retrouve d'ailleurs dans sa musique une universalité que bon nombre de compositeurs auront reconnu, comme Olivier Messiaen, Dutilleux, Takemitsu et tant d'autres. Parmi les œuvres que je vous recommande, il y a bien sûr Clair de Lune, dont le thème est mondialement connu. Je vous recommande également La Mer et l'opéra Péléas et Mélisande, qui est certainement son chef-d'œuvre. Je vais terminer par quelques citations du compositeur. Il y a une loi de beauté qu'il importe de ne pas oublier. Malgré l'effort de quelques-uns, nous semblons marcher vers cet oubli, tant la médiocrité, monstre à mille têtes, a de fidèles dans les sociétés modernes. Mais aussi, être supérieur aux autres n'a jamais représenté un grand effort si l'on n'y joint pas le beau désir d'être supérieur à soi-même. Ou encore, l'art est le plus beau des mensonges.